Bonjour, ce message audio, proposé par l'église Hosanna, a été enregistré en public lors de l'une de nos célébrations. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site sur le www.eglisehosanna.com. Vous pouvez nous contacter par courriel à info@eglisehosanna.com ou nous appeler au 02 62 59 66 15.
Ce message vous est prêché par le pasteur Bruno Picard.
Bonne écoute.
Aïe, aïe, aïe. Le magnifié. Je ne sais pas si j'aurai le temps de prendre pour mon message ce matin, on verra, mais je vais être bref, je vais préparer une plateforme pour ce soir. Tu ne peux pas demander à Dieu de bouger selon ce que tu sais de lui. En d'autres termes, ne limite pas Dieu sur ta perception de Dieu. Dieu est bien plus grand que ta perception. Oh. Dieu est bien plus grand que ta perception. C'est une bonne nouvelle, parce que si Dieu était aussi grand que ta perception, on n'en irait nulle part. Dieu est bien plus puissant que ma perception. Regarde ton voisin, dit, viens donc et marche sur l'eau avec moi. Alors je sais, c'est un vieux chant, mais ça m'a bien rafraîchi ce matin. Parce qu'il y a des moments où il faut savoir dire, Seigneur, tu sais quoi? Je veux vivre selon ton plan. Ok, partagez les feuilles, parce que je sens que vous n'êtes pas encore assez prêts pour la bombe que j'ai à partager. Merci pour les feuilles, merci. Les feuilles, merci beaucoup. Combien ce matin d'entre vous, vous êtes habitués à ce que nous faisons ici le dimanche matin? Chez vous. À faire les fous chez vous. Moi, si vous devriez me filmer dans ma chambre ou à Salazy, à mon avis, propriétaire d'Annie, il ne me prend pour un fou. Je suis parti vraiment avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est toi qui comptes maintenant. C'est toi qui change mon cœur. Je ne veux pas vivre ma vie chrétienne comme je l'ai toujours vécu. Je veux quelque chose de frais. Et ce matin, je vais partager rapidement un principe. Je ne vais pas forcément lire sur vos feuilles parce que vous pouvez mettre à part si vous voulez. Partage des versets, mais je vais partager un ou deux points importants. Je vais vous libérer tôt ce midi pour qu'on puisse, ce matin, pour qu'on puisse être ensemble ce soir à 4h en prière et de 5h à 19h maximum. De 17h à 19h, on aura un moment de puissance avec Dieu. Amen. Invitez les hommes et les femmes qui ont besoin d'entendre Dieu leur parler. Hébreux 11, 8 à 15 nous dit: c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y habitait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Rappelez-vous, dimanche dernier, on a vu ensemble qu'il faut que Dieu construise notre vie. Et si l'Éternel ne construit pas la maison, ceux qui la construisent, construisent en vain. Si ta vie et ma vie n'est pas construite selon le plan parfait de Dieu pour ta vie, pour ma vie, alors nous construisons en vain, c'est inutile, nous perdons du temps. Et ce matin, le roi des rois te dit, dans sa parole, il veut que tu construises selon son plan. Le verset 11 dit: c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance, malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareil au sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, écoutez bien ça, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Le verset 16 dit: mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie. C'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu de celui ou celle qui arrive à voir ce que Dieu a pour lui ou pour elle. Je répète ça, Dieu n'a pas honte d'être appelé ton Dieu si tu fais partie de ceux qui voient et qui croient en ce que Dieu a pour toi. Le verset 17 dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable, tout le monde dit capable, même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. C'est l'histoire d'un homme dont la femme est passionnée d'art contemporain, d'art moderne. Et il est très, très, très riche, donc la femme se met à acheter des toiles de maître très souvent. Et le mari regarde la toile et il fait, franchement, je ne sais pas du tout ce que tu trouves dans ces toiles, je les trouve moches, elles n'ont aucun style, tu gaspilles mon argent, je ne vois pas l'intérêt d'acheter des toiles aussi chères. Et sa femme est un peu déçue, mais chérie, mais j'aime ça, mais ça me plaît, c'est magnifique. Et tous ceux qui viennent chez lui regardent les toiles et disent, waouh, c'est beau, tu devrais avoir une galerie, c'est magnifique, pourquoi tu les caches? Et la femme dit, c'est bon, mon mari, il n'aime pas trop l'art, donc je les achète et je les mets dans un tiroir pour l'instant, dans un bureau, et j'arrive pas à les montrer parce qu'il n'aime pas, l'art, il trouve que c'est moche. Et un jour, le mari va faire un check-up chez le médecin. Et le médecin vérifie tout, le corps entier, et il arrive à vérifier les yeux. Et le médecin dit, monsieur, vous avez un problème aux yeux, à la vue. Il y a un œil qui voit de très loin et un œil qui voit que de très près, ce qui fait que votre vue est floue. Ah, d'accord, hein. Je vais vous prescrire une paire de lunettes. Il met ses lunettes et arrivé chez lui, il voit les toiles et il dit, waouh, mais c'est magnifique ces toiles, c'est des nouvelles toiles. Elle me dit, non, j'ai toujours eu, ce sont mes toiles. Chérie, tu sais quoi, je suis désolé, je t'ai jugé pendant des années et des mois. Je trouvais que tes toiles étaient moches et pour aujourd'hui, je vois comment elles sont belles, elles sont nettes, elles sont nickel, elles sont canon. Je vais te construire carrément un musée, tu mettras toutes tes toiles et tout le monde pourra venir voir les toiles gratuitement. Femme heureuse, tout ça. Et en lisant l'histoire, Dieu m'a dit clairement, beaucoup de chrétiens sont comme cet homme, qui gardent un œil sur ce que Dieu a promis et un œil sur ce qu'ils ont. Un œil sur la terre céleste et un œil sur la terre, sur ce qui est terrestre. Un œil sur le spirituel et un œil sur le naturel, ce qui fait qu'ils ont la vue flou, ils n'arrivent pas à percevoir ce que Dieu a mis autour d'eux pour accomplir et pour apprécier. Beaucoup d'entre nous ce matin, nous avons ce problème de ne pas voir ce que Dieu a pour nous et Dieu veut t'encourager ce matin, mon ami, parce qu'il t'appelle à marcher sur l'eau, il t'appelle à être comme Abraham et à voir ce que Dieu a pour toi. Alors ce matin, je vais être bref, mais je veux vraiment vous encourager à comprendre qu'il y a 4 tests. Vous savez, nombreux sont ceux et celles qui rêvent d'abandonner leur vie à Dieu, oui ou non? On rêve de dire, Seigneur, je te donne tout. Combien de fois avez-vous dit ça à Dieu? Prends tout, Seigneur. Prends tout ma vie entière. Et malgré tout, ce matin, il me semble que de nombreuses personnes, vous avez peur de tout abandonner. Qui peut me dire oui ce matin? Seigneur, prends tout, mais j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où je vais aller. Vous savez, moi aussi, parfois, j'ai peur. Je dis, Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je me demande si je serai à la hauteur, je me demande si je vais accomplir ton plan. Et Dieu, ce matin, te dit, mon ami, ma soeur, mon frère, ne crains pas. Alors, il y a des choses que j'aimerais dire, des phrases que je vais dire. Je ne pense pas qu'elles soient toutes sur vos feuilles. Alors, prenez des notes si vous le pouvez. Mais l'une des choses que Dieu m'a dit clairement pendant ma retraite spirituelle, c'est que j'ai tout intérêt à tout confier à Dieu, car Dieu contrôle toutes choses. Il est celui qui a réellement le contrôle. Il serait de la folie pour toi et pour moi ce matin que de croire une seule seconde que tu contrôles ta vie. Et croyez-moi, c'est clair et net pour moi dans mon esprit que dès l'instant où toi et moi nous contrôlons notre vie, elle est totalement hors de contrôle. La vie que tu contrôles est hors de contrôle car seul Dieu peut prendre le contrôle. Imagine que quelques secondes qu'un ange vienne te voir et dise, Johnny, je suis l'ange Gabriel. Et Johnny, Dieu m'envoie et te dit qu'il y a un choix devant toi ce matin, Johnny. Ou bien, tu as le droit de faire tout ce que tu veux. L'ange te donne le droit légal, Johnny, que tout ce que tu vas désirer et demander sera accompli tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Imagine la puissance que tu auras. Pas pour les âmes, mais pour ta vie seule. Tous tes désirs, tout ce que tu demandes, tout ce que tu souhaites, tous tes rêves seront exaucés à l'instant où tu les rêves, chaque jour de ta vie. Premier choix. Intéressant, mais non. J'aime bien ce genre de choix-là. Ah, ouais. Le deuxième choix, c'est que tous les choix de Dieu et tous les désirs de Dieu et tous les rêves de Dieu pour ta vie seront exaucés. Lequel tu choisis? Ah. Dieu dit, ou bien tous tes choix et tous tes désirs et tous tes rêves sont exaucés, ou bien tous mes choix et tous mes désirs et tous mes rêves sont exaucés. Lequel tu choisis? Avoir le contrôle total sur ta vie ou n'avoir aucun contrôle sur ta vie? Parce qu'en réalité, c'est le choix que Dieu nous donne tous les jours. C'est le choix que Dieu dit, attends, si tu veux réussir ta vie, lâche le contrôle sur ta vie, laisse-moi prendre les rênes, laisse-moi te conduire, laisse-moi te diriger, laisse-moi te montrer ce que j'ai pour toi. Est-ce que tu penses que tu aurais fait les meilleurs choix? Non. Il est impossible pour toi et pour moi aujourd'hui de savoir de quoi se fera demain. Il est très difficile pour moi de faire les meilleurs choix parce que je ne sais pas comment la réunion sera dans 25 ans. Bien sûr, il y aura le réveil, bien sûr, Dieu va agir, mais je ne sais pas exactement, alors que Dieu, lui, sait tous les détails. Il vaut mieux que ce soit lui qui prenne la décision, ne pensez pas? Alors voici ce que je vous propose ce matin rapidement, c'est de voir dans la vie d'Abraham, un homme comme vous et comme moi, qui un jour était dans son pays, tranquille, il était âgé de 75 ans, très très riche, hyper béni, et Dieu lui dit, ok Abraham, quitte tout, le premier test pour être sûr que notre vie est totalement abandonnée entre les mains de Dieu. Le titre de mon message, c'est les quatre tests du disciple. Et le disciple, un vrai disciple de Christ, suit Christ. Un vrai disciple de Christ est à l'écoute de Christ. Un vrai disciple de Christ fait ce que Christ lui demande. Un vrai disciple de Jésus-Christ est l'ami de Jésus-Christ. D'accord? Et la Bible dit, Jésus dit lui-même, si tu es mon ami, vous êtes mes amis si vous faites ce que je dis. Oui ou non? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je dis. Alors, premièrement, ce matin, le premier test, c'est le changement majeur. Alors, en parlant de test, qui c'est qui aime les tests? Ce gros mot-là, de langue française, test, épreuve, je te teste. J'aime pas quand on me teste. Moi, à l'école, les profs me testaient pour m'écraser. Et je savais que quand ils faisaient un test, c'était pour pas que je progresse. Mais Dieu, lui, non. Dieu, il veut te tester pour que tu progresses. Regarde ton voisin, il dit, chaque test de Dieu est une invitation à la promotion. Chaque fois que tu es testé, Samuel, c'est en fait une invitation à la promotion spirituelle. Pour nous, c'est un test. Pour Dieu, il t'invite à grandir, à être un niveau au-dessus. Donc ce matin, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut s'identifier à Abraham et voir comment vous et moi, nous pouvons commencer à vivre une vie d'abandon, de disciple, où c'est sa volonté qui compte et plus la mienne. Oui ou non? Parce qu'il est temps, si Steve et moi, on veut vous aider à rentrer notre destinée, vous devez abandonner votre propre volonté, vous devez prendre sa volonté. Il faut arriver à un stade où on dit, Seigneur, non plus ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux, tous mes désirs, mes rêves, je les mets de côté, je veux tes désirs, je veux tes rêves, je veux ta volonté, Esprit de Dieu. Et quand tu commences à parler comme ça, Dieu vient, je prends le contrôle, et Dieu dit, ok, premier test, changement majeur. À chaque fois que j'ai dit à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux, le changement a été majeur. À chaque fois, pas forcément que je change de pays, mais mon cœur a été totalement changé, brisé et reconstruit par Dieu. Et Abraham, ici, on voit, si vous avez le temps de lire chez vous, de Genèse 12 à Genèse 20, 25, vous allez voir qu'Abraham, lui, Dieu lui dit, Abraham, quitte ta nation, quitte ton pays. Alors bien sûr, le mot caldé signifie danse avec les démons. Pas ça de courant, mais le mot caldé, là d'où vient Abraham, qui était situé dans la Mésopotamie, qui est proche de Babylone, Ur en caldé, la région de Caldé, des Chaldéens, signifiait danse avec les démons. En fait, Dieu voulait dire, Abraham, arrête de danser avec les démons, viens vivre pour moi. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, je suis désolé de te dire, tu es en train de danser avec des démons. Tu es en train de t'amuser, tu te détends, c'est cool, mais tu es totalement en dehors du plan de Dieu, donc tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'autorité de Dieu. parce que ce n'est pas dans son plan parfait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, nous prêchons ces messages-là, pas pour nous mettre sous le coup de la culpabilité, mais pour vous inviter à payer le prix dans la prière, tout seul chez vous, pour chercher ce que Dieu veut que vous fassiez. Et d'arrêter de vivre votre vie par procuration. Ce n'est pas l'Église, Hosanna, qui vous sauve. C'est que votre relation avec Dieu qui fait germer des fruits. Une vraie relation avec Dieu est fructueuse. Une vraie relation avec Dieu se voit. Une relation avec Dieu est pragmatique et palpable. Comme disait Steve il y a 2 semaines de cela, nous avons été sauvés pour de grandes œuvres. Pour sa volonté. Oui ou non? Alors ce matin, quand Dieu t'invite à un test, il t'invite à une promotion. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne laisse personne échouer. Quand tu échoues, il te refait passer le test. Tu fais 50 fois le tour de la montagne, tu te débrouilles toi. Tu échoues une fois, il attend un petit peu et il remet le même test. Il y a des gens qui me cassent, ils me choquent parce qu'ils aiment bien échouer, on dirait, parce qu'ils aiment bien passer le même test tout le temps. Le test de l'amertume, le test de l'offense, le test de je quitte l'église, le test j'en ai marre, le test je suis fatigué, le test Dieu m'aime pas. J'ai pensé hier à un film que j'ai vu il y a des années de cela, j'aime beaucoup le film, ça s'appelle Bruce Tout-Puissant. Vous avez vu le film? Dans Bruce Tout-Puissant, le gars s'énerve et dit « Toi, s'il y a un gars qui ne fait pas son travail ici, c'est toi Dieu, tu ne fais pas ton travail, tu ne m'aimes pas. Tu t'en fiches de ma vie. » Et puis il se plaint comme ça. Et le lendemain, il rencontre Dieu. Et il fait ça. Et il fait « Alors, on va rester vraiment Dieu, petit malin. » Enfin, là, j'ai mis le film, d'accord. « On va rester vraiment Dieu. » Et Dieu n'est pas religieux. « On va rester vraiment Dieu. » Et puis, comme ça, il cache ses mains et il fait « Combien dois-je j'ai là? Combien dois-je j'ai ?» Comme ça, il fait ça. Et Dieu lui dit « 7. » Et il fait « Et non !» Il fait comme ça et les 7 doigts apparaissent sur la main. Il fait « Ah !» Il s'affole. Et il commence à dire « J'en ai marre !» Et Dieu lui dit « Ok, à partir de ce moment-là, tu auras tous mes pouvoirs. Tu pourras faire ce que tu veux, tu feras ta volonté, tu seras comme moi, tu seras Dieu, tu feras tout ce que tu voudras. » Et là, le gars, il sort de la réunion avec Dieu, il entend « I've got the power !» Et il change la puissance, il est comme ça. Tranquille, il n'y a jamais la morale du film. Et il est là, et tout d'un coup, il commence à recevoir des emails, des gens qui prient. Et première minute, il y a plein d'emails qui débarquent. Au bout d'une heure, il y a des millions. Il commence à répondre comme ça, il s'affole. Il dit « Je dis oui à tout le monde. Oui à tout le monde. Oui à toutes les requêtes de prière. » Purée, le lendemain, tu as 150 000 gars qui gagnent l'auto. Tu as plein de gars qui il y a une baston dans la ville parce que tout le monde a gagné l'auto. Tout le monde a joué des chiffres différents, mais ils ont gagné l'auto. Parce qu'il a dit oui à tout le monde pour gagner l'auto. Donc les gars, c'est la bagarre. Non, c'est mon ticket, ton ticket est faux. Et là, il commence à se rendre compte qu'en fin de compte, il y a trop de puissance, il ne sait pas quoi faire avec. Et Dieu lui dit, ça fait une semaine que tu as ma puissance, qu'as-tu fait de bien? Ça fait une semaine que tu as ma puissance, qu'as-tu fait pour faire avancer les choses pour ton prochain? Et quand je regarde ce film, je pense à moi, je me dis, mais moi, ça fait des années que j'ai la puissance de Dieu en moi, parce que si tu es chrétien, tu as la puissance de Dieu en toi. Qu'avons-nous fait pour faire la différence, pour changer? Avez-vous déjà lu dans la parole de Dieu ce passage qui dit « Nous sommes une nouvelle créature » ? Oui ou non ? Dernièrement, je lisais ce passage, Pasteur Steph, je lisais ça et je lis « Tu es une nouvelle créature » et au moment où je lis ça, écoutez bien cela, au moment où je lis ça, le Saint-Esprit me dit « Fais-moi une liste de ce qu'il y a de nouveau dans ton comportement. » Tu es une nouvelle créature mais tu réagis de la même façon. Tu es une nouvelle créature, mais tu as le même genre de langage. Tu es une nouvelle créature, mais tu as les mêmes problèmes. Tu es une nouvelle créature, mais tu bois ou tu fumes toujours. Si tu es une nouvelle créature, ton comportement doit montrer que tu es une nouvelle créature. Alors, attache-toi à vivre ce que tu es dans l'esprit. Ok, donc Abraham, le premier test, parce que Dieu veut qu'on puisse grandir, qu'on puisse changer pour lui. Le premier test du disciple pour vivre ce que Dieu veut qu'on vive, et s'il vous plaît, restez dans l'esprit avec moi parce que Dieu veut construire l'église en ce moment. Il est en train de prêcher, on prêche des messages pour vous amener dans une position spirituelle où vous êtes capable de dire oui, Seigneur, je te sers. Amen. C'est ça que nous voulons faire avec vous ce matin. Pas pour nous, moi, Bruno Picard, c'est pour vous, pour que toi tu puisses dire je vis le plan parfait de Dieu. Premier changement majeur. Seigneur, où m'amènes-tu? La question que Dieu, que Abraham pose à Dieu, je pense avec beaucoup de compréhension, c'est qu'Abraham dit « Seigneur, mais où m'amènes-tu ? » Écoutez bien ça. Je paraphrase rapidement. Dieu arrive et dit « Abraham, quitte tout. » Abraham est âgé de 75 ans. Et alors que j'écoutais ce message hier, et dans mon cœur, je le répétais, je lisais la parole de Dieu, Dieu m'a dit « Beaucoup de gens pensent être à l'âge de la retraite alors qu'ils sont à l'âge de la conquête. » Hey, beaucoup de gens pensent être à l'âge de la retraite alors qu'ils arrivent à l'âge de la conquête. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu vas pourrir ou tu vas grandir? Tu vas mûrir ou tu vas mourir? Que vas-tu faire? Vas-tu prendre ta vie en main avec moi et toi et moi, nous formons la majorité et quitte tout et sers moi? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme Abraham et aller vivre en Éthiopie ou en Chine. Ça veut dire que Dieu veut que tu sois capable de dire, Seigneur, je suis prêt à quitter tout ce que tu veux que je quitte parce que je veux te servir, je veux te suivre. Vous savez, lorsque Abraham a quitté Ur en Chaldée avec son papa, ils se sont dirigés vers Canaan. Et l'histoire dit dans Genèse 11 et 12 qu'ils se sont arrêtés à mi-chemin à Charan. Et le mot Charan signifie la terre des petits fruits. Le mot Charan signifie la terre des petits fruits. Et beaucoup de chrétiens se convertissent, entendent Dieu leur parler, commencent quelque chose dans l'esprit, et tout d'un coup ils commencent à avoir des petits fruits et ils s'arrêtent là et ils préfèrent garder les petits fruits qu'ils ont au lieu de commencer à voir ce que Dieu a pour eux, et ils sont arrêtés dans la terre des petits fruits. Il a fallu que le père d'Abraham ne meure pour qu'Abraham puisse quitter Charan et reprendre la route 5 ans après pour retrouver la terre promise, Canaan. Et ce matin, Dieu m'a clairement montré que beaucoup de chrétiens se sont arrêtés à la terre des petits fruits. Tu vas à l'église, tu aimes Jésus, tu vas au ciel, c'est super, mais tu as des petits fruits, tu n'as pas la plénitude de ce que Dieu veut que tu portes dans ta vie. Tu as appelé au ministère, tu as appelé à faire telle chose, à avoir beaucoup d'argent, d'être béni pour bénir les autres. Et pourtant, tu es là et tu t'accroches à ce que tu as en pensant que c'est tout ce que Dieu veut que tu donnes. Mais Dieu ne s'arrête jamais. La croissance en Dieu ne s'arrête jamais. La Bible dit, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous et exercez l'autorité. Assujettissez-la, exercez l'autorité. Dieu ce matin dit à son peuple, il veut que tu puisses comprendre qu'il t'appelle à sortir de Ur en Chaldée, c'est quoi? La terre où tu danses avec les démons. Que surtout tu ne t'arrêtes pas à Charan, la terre des petits fruits, mais que tu atteignes Canaan. Et quand ils arrivent à Canaan, ce qui m'a vraiment touché avec Abraham, ce que je trouve parfois Dieu est très, très, très spécial, dès l'instant où Abraham arrive à Canaan, écoutez bien ça les amis, j'étais choqué, pendant 3 jours, j'ai parlé avec le Seigneur, comment tu peux faire ça Abraham? Abraham marche près de 2000 kilomètres avec chameaux, vaches, taureaux, brebis, 318 serviteurs, sa femme, ses enfants, son neveu. Il débarque enfin dans la terre promise, tout le monde lui fait confiance. Dès l'instant où il débarque en Canaan, il voit Canaan, Alain, écoute ça mon frère pour toi, il voit Canaan déjà peuplé par des armées ennemies barbares, des peuples violents. La terre que Dieu lui a promise est déjà peuplée par des ennemis. La plupart d'entre nous, lorsque Dieu nous donne une prophétie, nous pensons que voilà, c'est la promesse, elle va s'accomplir de toute façon, j'attends. Ma terre promise est là, j'arrive, je vais arriver, je vais faire oh la terre promise, j'ouvre le petit portail, je m'assois et je campe. Non. Dès que tu arrives dans la terre promise, ta terre promise est déjà possédée par l'ennemi. Ta terre promise est possédée par l'ennemi. Si tu veux avoir un impact avec des prostituées et tu veux les aider à avoir une nouvelle vie, cette terre promise est déjà possédée par l'ennemi. Et avant de toucher les cœurs des prostituées, il faut que tu détruises l'autorité spirituelle qui est au-dessus d'elle. Si vous voulez avoir l'autorité au tampon Saint-Pierre dans votre région, il faut savoir quelle est l'autorité spirituelle qui est établie au-dessus du quartier. Quand Daniel a parlé, l'ange Gabriel a été envoyé par Dieu et Gabriel lui a dit, dès l'instant où tu as prié, Dieu a reçu ta prière, je suis venu l'amener moi-même. Et pourquoi est-ce que Dieu envoie Gabriel? Parce qu'en chemin, au-dessus de la région où Daniel vivait, il y avait des autorités spirituelles, des généraux spirituels démoniaques qui avaient mis la main sur la région spirituelle et Gabriel a dû venir lui-même pour vaincre l'ennemi afin de donner la réponse à Daniel. Il y a une réalité spirituelle que vous et moi devons connaître, frères et sœurs. La première chose ce matin, c'est que Dieu veut dire à tous les Abraham ce lieu, quitte ta zone de confort, arrête de croire que tu possèdes tout, arrête de croire que tu contrôles tout, laisse Dieu prendre les rênes de ta vie, Première chose, accepte le changement radical de mentalité et de cœur s'il le faut. Lâche-toi pour Dieu. Message, quand tu vas arriver, il y aura des armées ennemies, tu as ta promise. Et aussi, quand tu lis l'histoire dans Genèse 12, lisez s'il vous plaît chez vous, dans Genèse 12, la parole de Dieu dit qu'après quelques mois, écoutez bien sa frère et soeur, après quelques mois dans Canaan, Abraham n'a même pas encore fini de détruire les armées ennemies, Jim. Abraham est obligé de quitter Canaan pour aller en Égypte à cause d'une grande famine qui frappe Canaan. Frère et soeur, je ne suis pas pour vous, mais pour moi, si je devais être appelé comme Abraham, et j'arrive dans ma terre promise, qu'elle est possédée par des armées ennemies, et qu'en plus, après de quelques semaines, Dieu me dit, écoute, quitte ta promise, parce qu'il y a une famine. Comment est-ce que tu réagirais? Sincèrement. Seigneur, il y a un problème, Seigneur, tu ne m'aimes pas, le prophète s'est trompé, je n'ai pas entendu Dieu me parler, c'est impossible, j'ai vu tout échouer, parce qu'Abraham a dû avoir un conflit énorme dans sa vie. Tu me suis ou pas? J'essaie de vous amener à une position spirituelle où vous allez commencer à comprendre que vous devez célébrer Dieu de maintenant parce que votre terre promise ne va pas tomber dans votre poche comme ça. Les projets qui vont être le reflet de votre destinée ne vont pas tomber dans votre poche comme ça. Il y aura un combat spirituel, il y aura une passion à avoir, il y aura un zèle, il y aura une obéissance à Dieu, il y aura un abandon entre ses mains. Mais si nous faisons ça, nous verrons la puissance de Dieu. Allez plus vite parce que là, j'ai pas mal de notes à lire. J'aime le Seigneur parce que Dieu demande à Abraham à 75 ans de tout quitter. Et en général, quand tu arrives à 60 ans, 62 ans et demi, 3, 75 ans, tu te dis, là, c'est bon. J'ai une maison, j'ai vécu. J'ai la retraite, c'est cool. Christian, oublie ta retraite. Oublie, tes cheveux vont redevenir noirs. Et le travail de Dieu. Le premier test, c'est d'accepter de suivre Dieu, même si tu ne sais pas exactement où cela va t'amener. Combien ce matin vous avez peur de ne pas savoir où est-ce que vous allez arriver exactement dans 10 ans, 15 ans, 5 ans? Alors, sincèrement, je disais à un frère hier, je ne vais pas dire son nom parce que je ne suis pas gêné, mais c'était fort dans mon cœur. Je dis à ce frère, mon frère, tout ce que tu as, c'est une semence. Il me dit, ouais, amen, ouais, yes. Je suis d'accord, mais il n'avait pas compris qu'une semence, pour porter du fruit, il faut qu'elle meure. Hein, ce que j'ai, c'est une semence. Tout ce que tu as, c'est une semence. Cette semence-là, pour porter du fruit, il faut qu'elle soit plantée en terre pour qu'elle puisse donner beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres. La plupart de nous, nous gardons la semence.
C'est ma semence. Hein, c'est ma semence, Seigneur. C'est ma semence et c'est moi à moi.
Bon, Seigneur, je te donne 10% de la semence, ok? Allez, hop. Mais ça n'a qu'une puissance, c'est une semence. La semence n'est puissante que dès l'instant où elle est plantée. Tu peux garder 5 millions de semences de patates douces dans un grenier, ça ne va rien faire du tout. Oh, j'ai plein de patates douces. Où ça? En semence. Ouais, c'est bon? Je ne sais pas, c'est en semence. Combien de vous, pendant le jeûne de Daniel, vous avez fait un bouillon de semences? Un carré de semences? Non, ce n'est pas possible. Tu sèmes tes semences, et qu'est-ce que tu fais? Tu attends les fruits et tu récoltes, et tu manges les fruits de ta récolte, oui ou non? Ok, c'est passé. Premièrement, tout le monde dit, je veux faire confiance à Dieu. Vous savez, le premier test, c'est ça, c'est de savoir, Seigneur, je veux commencer quelque part, où te servir, montre-moi, où te servir, montre-moi, comment te servir, montre-moi, où je vais commencer. Comme ça, vous me dites tout à l'heure, le point de départ pour cette avec moi, parce que vous venez nous voir avec des projets, au moins un mot. Je veux, par exemple, commencer là. Je veux commencer à servir Dieu dans tel domaine. Ça, tu sais où tu commences. Seigneur, je commence là. Je quitte tout pour toi. Je te suis. Et tu ne sais pas où ça va t'emmener, mais tu sais que Dieu prend le contrôle. C'est comme cette histoire que j'aime beaucoup d'un jeune pasteur qui vient à une conférence. Et il rencontre son pasteur, son bishop, son apôtre. Et il dit à l'apôtre, bonjour pasteur, je suis content d'être là. Et l'apôtre lui dit, écoute, mon fils, c'est bien que tu sois là. J'ai vraiment, vraiment, je suis malade, j'ai la grippe, j'ai mal au ventre, mal au nez, tout ça. Je ne pourrais pas assurer la première session ce matin qui a lieu à 10h, juste après ce gars qui prêche là. C'était moi en principe, mais je ne peux pas le faire. Donc prends ma place, dans mon équipe, tu prends ma place, tu prêches. Mais pasteur, je ne peux pas, je suis un jeune pasteur, j'ai même pas emmené ma Bible, je n'ai pas emmené de message, je n'ai rien préparé, je suis vide, j'ai rien. Écoute, t'inquiète pas, fais confiance à Dieu. Le gars est là, le jeune pasteur est là, il dit mince. Le pasteur, l'apôtre, il part aux toilettes et il fait ce qu'il a à faire, il est malade. Le jeune pasteur commence à s'asseoir sur une chaise, commence à prier, il dit, mais lâche, c'est la galère là. Et il voit une Bible à côté de lui comme ça. Il dit, bon, bah, je prends au moins une Bible, je prends un verset au hasard, puis Dieu va me parler, il faut qu'il me donne au moins un verset, il me reste 30 minutes, il faut au moins un verset. Il prend la Bible comme ça et voit dedans, il y a des notes manuscrites. Il fait, ouais, c'est bon ce message-là. Ça tape ça, c'est bon, tu vois. Enfin, il n'est pas créole, hein, il est américain. Et il dit, waouh, c'est super, génial, hallelujah, praise God. Comme ça, il prend le message, il monte sur l'estrade et il prêche le message. Il prêche le feu de Dieu, ça, à la fin du message. Tout le monde vient le voir, il dit, mais tu viens d'où toi? Mais c'était le meilleur message de la conférence, c'était canon, mais ça vient d'où? Il dit, merci, merci beaucoup, vous savez, je fais ce que tu m'as demandé de faire. Tu sais, ce gars, je le marmaille. Il vient, son apôtre qui vient comme ça en courant, qui pousse tout le monde, il pousse tout le monde comme ça, il dit, mais qu'as-tu fait? T'as pris mon message, c'était ma Bible. Et ce soir, notre message, j'avais qu'un seul message en deux parties, t'as tout prêché, je ne peux plus rien faire maintenant. Et jeune gars dit, c'est pas pasteur, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Le fait, c'est qu'on ne peut plus continuer à dire aux gens, faites confiance à Dieu si nous-mêmes ne sommes pas capables de faire confiance à Dieu. Ne dites pas au monde, aux gens du monde, aie confiance en Dieu si toi-même, au fond de ton cœur, tu sais que tu as confiance en Dieu parce que tu contrôles ta vie. Suivre Dieu quand tu ne sais pas où tu vas. Deuxième test rapidement. La promesse retardée, celle-là, c'est la plus dure pour moi. Comment, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais quand tu as une promesse depuis 15 ans, 10 ans, et elle est retardée, elle ne se manifeste pas, pourquoi tout le monde est frustré par rapport à ça? La Bible dit dans Hébreux 11, 9, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger, et il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob. La parole de Dieu dit qu'il a, verset 10, il a attendu les promesses de Dieu. Et la Bible parle dans ce passage-là de deux mots, promis et promesse. C'est comme si Dieu dit, j'étais promis, c'est comme ça, ça va arriver. Et Abraham a dû attendre des années et des années. Savez-vous combien de temps Abraham a dû attendre pour avoir Isaac? Combien de temps Abraham a dû attendre pour avoir Isaac? 25 ans. À l'âge de 75 ans, Dieu le touche, et c'est seulement à l'âge, parce que Dieu lui dit, quand il quitte son pays, « Je ferai de toi une grande nation. » Et en parlant, d'où vient David? David, d'où vient-il? D'Abraham. Et Moïse? D'Abraham. Et Jésus? D'Abraham. Et Paul? D'Abraham. Tu parles d'une armée? Des siècles plus tard, ce qu'il a accompli pour Dieu parle toujours aujourd'hui dans nos vies. Paul nous parle toujours aujourd'hui à cause d'Abraham qui a suivi Dieu. Alors je crois que ce que Dieu veut nous apprendre dans le test numéro 2, frères et sœurs, c'est très très simple. C'est que bien souvent, nous voulons accélérer la promesse, mais nous ne sommes pas prêts. Et ce que Dieu veut être sûr, c'est que tout au long du chemin, nous gardons sa main dans notre main. Quand vous savez que cette histoire, je parlais ce matin, c'est un peu trop long, mais Abraham a voulu aider Dieu. Et après plusieurs années, rien ne se passait, Sarah lui a dit, écoute Abraham, je suis désolé, je suis trop flétri, je suis trop vieille, je ne peux plus rien faire, je suis proche de la mort et toi aussi d'ailleurs, il n'y a rien qui va marcher entre nous. Imagine la scène, d'accord? Moi j'aime bien imaginer, je vois les deux là. Essaye de me caresser la joue. Elle dit, prends ma servante. Abraham, lui en général, n'a pas dit non. Mais bon, c'est toi qui vois. Ok, j'y vais. Hein. Si vous êtes choqués, c'est pas ma faute, la parole le dit. Hein. Dieu dit, Abraham n'a pas dit, ah non chérie, tu crois? Elle m'a dit ça le gars. Le sacré Abraham, quand je vais voir au ciel, je vais lui parler moi. Et Abraham a dit, ok j'y vais. Et vous savez, il a eu Ismaël. Et 13 ans plus tard, quand Ismaël avait 13 ans, Dieu a dit, maintenant Abraham, ta femme, celle qui était vieille, et bien encore plus vieille. Et toi qui étais vieux, t'es encore plus vieux. Alors vous allez vous voir dans une chambre. À l'époque, il n'y avait pas de Viagra. Désolé, mais il n'y avait pas. J'ai vérifié. Sur Google, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de techniques particulières. Il fallait, écoutez bien ça, avoir confiance en Dieu. C'est fou comme la religion vous empêche de respirer. Vous êtes dans l'église. Dieu n'est pas choqué par ce que je partage, que c'est lui qui en parle. Dieu dit à Abraham, va voir ta femme, tu auras un enfant à la même période dans un an. Je ne sais pas pour vous les gars, mais moi j'aime Dieu. Dès l'instant où tu crois être à la retraite, tu repars en conquête. et tu fais des conquêtes. Avec ta femme, bien sûr, hein, ok? Abraham a dit à ton 25 ans, frère et soeur, écoutez bien ça, frère et soeur, écoutez bien ça. Le test numéro 2, c'est lorsque le plan de Dieu tarde à s'accomplir, nous avons tendance à choisir le plan B. Mais écoutez bien ça, le bien est le pire ennemi du meilleur. Le numéro 1 mondial n'a pas peur du 190e mondial, il a peur du numéro 2 mondial. Le plan parfait de Dieu n'est pas inquiété par les plans les plus nuls de la terre. Le plan parfait de Dieu est inquiété par le plan qui nous paraît bien, le plan B. Le troisième test, c'est le test de la situation impossible. Seigneur, comment cela va-t-il se passer? On vient de le lire, mais je viens de le dire dans Hébreux 11, quand Dieu dit « va voir ta femme », et la Bible dit que Sarah elle-même a été rendue capable. Et le verset qui me touche le plus, c'est quand après vous lisez, malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ce que Dieu dit ce matin, c'est que lorsque Dieu fait une promesse, sa promesse c'est lui, et lui c'est sa promesse. Sa promesse c'est lui, et lui c'est sa promesse. Si Dieu dit le réveil va avoir lieu à la réunion, c'est que le réveil va avoir lieu à la réunion. Si Dieu dit tu seras un homme riche, béni et tu auras des millions sur ton compte, et que tu le seras si tu prends la promesse de Dieu, tu te mets à vivre pour Dieu. Mon troisième test, c'est le danger de dire c'est impossible. Et voici ce que Dieu m'a dit, et je ne pense pas que ce soit sur vos feuilles ce matin. Dieu m'a dit, Bruno, dis à mon peuple. C'était mardi matin, très tôt le matin. Il me dit, dis à mon peuple qu'il faut qu'ils acceptent le fait que ce que je leur demande est impossible. Ce que Dieu nous demande dans notre vie, à vous et à moi, le plan parfait de Dieu pour notre vie est impossible. Et s'il vous paraît difficile, alors vous n'allez jamais l'accomplir. Un plan difficile ne vient pas de Dieu. Seuls les plans impossibles viennent de Dieu. Parce que si le plan est difficile, tu auras tendance à trouver tes propres solutions, même les plus onéreuses, même les plus coûteuses, même les plus profondes. Tu vas tout chercher parce que c'est difficile. Mais si c'est impossible, tu ne vas même pas chercher, c'est impossible. Et donc, tu n'as qu'une seule solution. Face au plan impossible de Dieu, il faut se connecter au Dieu de l'impossible. Et Dieu dit, voilà maintenant, j'ai attendu que tu aies 100 ans, que ce soit impossible pour toi d'avoir un enfant à ton âge, impossible. Et Dieu aurait pu dire ça, frère, sœur, je ne sais pas pour vous, mais une femme âgée de plus de quoi, 50 ans, 45 ans, 50 ans, c'est déjà quasiment impossible pour avoir un enfant. Ça arrive, il y a des miracles comme ça, au bout de 50 ans, tu as un enfant. Mais en général, ça n'arrive plus. À 75 ans, c'est quand même plus difficile, ou non? Qui pense qu'à 100 ans, à part Sarah, il est possible d'avoir un enfant? Qui veut essayer? C'est impossible! Et Dieu dit au peuple ce matin, Hosanna, écoutez bien ça, peuple de Dieu, voici le sens de mon message. Réjouis-toi si le plan parfait de Dieu est impossible. C'est un bon signe. Ça veut dire que Dieu va attendre s'il le faut que tu arrives à une situation où tu dis c'est pas possible, on ne pourra pas gagner la France, on ne pourra pas, sans oui, avec tout seul tu ne pourras pas, c'est impossible. Mais dès que tu te connectes à Dieu, tout ce qui est impossible est entre ses mains. Tout ce qui est impossible est entre ses mains. Et le danger que Dieu m'a dit aujourd'hui, il m'a dit Bruno, c'est très bien. Écoutez bien ça, frère et sœur, c'est très bien que les peuples de Dieu croient en lui, qui disent on peut le faire, on va le faire, mais ce n'est pas biblique. C'est humaniste de croire qu'on peut le faire. Oui, il y a du potentiel, oui, Dieu a mis en nous, mes frères et sœurs, même, écoutez bien cela, même le plus talentueux des hommes ne peut pas faire le plan parfait de Dieu sans la puissance de Dieu. Même le plus riche des hommes ne peut pas changer le monde sans la puissance de Dieu. Même le plus intelligent de tous les hommes ne peut pas changer le monde sans la puissance de Dieu. Que tu sois pauvre ou riche, intelligent ou moins intelligent, grand ou petit, quoi que tu sois, c'est la puissance de Dieu qui fera la différence. Le danger pour vous et pour moi, c'est de commencer à croire que parce qu'on a des beaux projets, où on chante bien, où on coud bien, on fait bien la cuisine, alors c'est ça qui fera la différence. Ce n'est pas ton talent qui fera la différence, c'est le talent entre les mains de Dieu. Ce n'est pas mon intelligence qui fera la différence, c'est mon intelligence soumise au Saint-Esprit, car ma sagesse est pourrie face à la sagesse de Dieu. Le danger pour vous et pour moi, c'est de croire, et j'aimerais avoir un équilibre parce qu'on a fait, oui, on est sauvé pour de grandes œuvres, mais les grandes œuvres, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Je vais vous le prouver. Christ dit que si vous croyez en lui, vous ferez des œuvres plus grandes. Pas en qualité, parce que personne ne peut égaler l'excellence de Christ, mais en quantité. Est-ce que tout le monde me suit ce matin ? Proverbe 3, le verset 6 nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Zacharie 4, 6 dit « Ce n'est ni par la puissance et ni par la force, mais c'est par mon esprit, l'Éternel des armées. » Frères et sœurs, vous devez comprendre ça. Et c'est une parole pour moi qui m'encourage. Parce que si j'essaye, et c'est votre problème ce matin, je vous déclare en face, c'est votre problème et c'est mon problème, c'est le problème des Français. Nous voulons aider Dieu en scannant nos qualités et nos talents. Mais ce n'est pas le plus important. La première chose qu'il faut être sûr, c'est que je suis connecté à Dieu et c'est sa puissance qui est en moi qui fait la différence. Ensuite, mes talents et tout ce que je suis, je les place entre les mains de Dieu. Je les place sous le feu de Dieu. Je les place dans la présence de Dieu. Mais il ne faut pas faire l'inverse en disant, Seigneur, j'ai un talent, prends ma vie, je veux faire ça. Vous savez pourquoi ? Parce que si on se base uniquement sur les talents, personne n'aurait dit que David aurait été roi. David était un excellent musicien. Il aurait pu dire, c'est la musique qui dicte toutes les choses. Donc ma musique, c'est mon chant. C'est faux. En tout cas, ce n'est pas totalement vrai. Non, je suis un bon berger. Et alors, est-ce que David a été berger toute sa vie ? Non, il a été musicien, il a été berger. Mais son appel était de devenir roi. Et pour un homme comme David, il était impossible pour sa petite tête de dire « Je serai roi un jour, sauf par la puissance de Dieu. » De quoi je parle ce matin ? J'essaie de vous enlever de ce côté français, franco-francophone, qui vous dit « Alors comme j'ai un talent, je veux te servir Seigneur, je t'offre mon talent. » Mais ce que Dieu veut, c'est toute ta personne. Une personne remplie du feu de Dieu peut faire la différence. Une personne remplie de l'onction du Saint-Esprit fait fuir l'ennemi. Et j'aimerais que l'église d'Anna ne perde pas ça de vue. On ne va pas devenir une église sociale. On va être une église spirituelle. Et dans la puissance spirituelle, il y aura de tous les styles. Il y aura des projets, des musiciens, des prophètes, des chanteurs. Il y aura des gens qui vont servir Dieu. Mais la base, c'est la puissance de Dieu. Seigneur, prends tout de moi. Je te fais confiance, Esprit de Dieu. Abraham et Sarah ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ils ne pouvaient donc pas se baser sur leur propre capacité. Et c'est ce que Dieu veut faire. Moïse était un prince en Égypte. Et Dieu a appris... Écoutez-moi, il a fallu 40 ans pour que l'Égypte entre en Moïse. Il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte de Moïse. Et quand Moïse a commencé à son ministère, il n'a pas dit « Je suis le prince de l'Égypte, j'ai tous les talents qu'il faut pour faire la différence. » Il a dit « Seigneur, je ne sais même pas parler. Amène Aaron avec moi, s'il te plaît. » Quand il a fallu prier pour la victoire, Moïse n'a pas dit « Je suis un grand stratège, chef de l'armée égyptienne. » Il a prié, il a levé ses deux mains. Frères et sœurs, combien de diplômes il faut pour prier ? Il a prié et deux frères venaient soutenir ses bras comme ça. Et quand il priait, la puissance de Dieu se manifester. Et Dieu m'a dit aujourd'hui de dire à son peuple, ne laisse pas mon peuple tomber dans l'humanisme. Que mon peuple demeure dans la puissance de Dieu. Et que cela soit dans notre tête, dans notre cœur, la priorité, la puissance de Dieu, Samuel. La puissance de Dieu, mon ami. C'est ça qui fait la différence. Carlos Anacondia est un homme de Dieu extraordinaire. Et quand vous lisez son bouquin est très très simple. Il dit, il demande, Dieu exauce. Et je ne vois pas d'étape numéro 1. C'est important, je ne suis pas contre les étapes. Mais j'ai peur que la France, et Dieu ne veut pas que la France, l'église en France, reste comme elle a toujours fait. Elle fait des comités pour faire des comités. J'adore ce que l'a dit Renard Bonquet cette semaine. Renard Bonquet a dit, quand Dieu a voulu sauver le monde, il n'a pas envoyé un comité. Quand Dieu a voulu sauver le monde, il n'a pas dit, bon, on fait un comité, on va voir ce qui se passe. Il a fait, mon fils, le meilleur, l'unique, on l'envoie. Si Dieu veut changer une nation, il va chercher des hommes et des femmes qui sont vides de leur propre orgueil, vides de leur propre talent, gloire humaine, et qui vont dire, Seigneur, je ne suis rien, mais entre tes mains, je suis tout. Après, les talents que vous avez, les dons que vous avez, c'est un soutien supplémentaire, c'est pour créer ce qu'on appelle un lien avec les gens. Les musiciens peuvent parler aux musiciens. Les chanteurs peuvent parler aux chanteurs. Les banquiers peuvent parler aux banquiers. Mais ce n'est pas ça qui va sauver la nation. C'est la puissance de Dieu. C'est le fait de dire, Seigneur, je ne suis pas capable d'avoir un enfant à 100 ans. Mais toi, tu me rends capable. Oh, j'espère que ça rentre dans votre cœur ce matin. Accomplir, écoutez-moi ça. J'écris ici. Accomplir le plan de Dieu est impossible sans le Dieu de l'impossible. Seul Dieu est capable de faire ce pour quoi il t'appelle. Alors la question c'est, Seigneur, comment vas-tu changer mon fils? Comment vas-tu changer mon mariage et mon couple et mes finances? Oui, il faut étudier, oui, il faut la sagesse, bien sûr, il faut prendre des cours, bien sûr, il faut se former. Oui, je comprends tout ça, mais la base, citez-moi les hommes et les femmes de Dieu les plus influents dans l'histoire de l'Église et je vous montrerai, je vous prouverai par A plus B que 90% de ces hommes-là, ce qu'ils vont dire tous, la première chose, ma connexion avec Dieu a fait la différence. Ils ne vont jamais dire mes stratégies, mes méthodes, mes talents. Ils vont dire la communion avec le Saint-Esprit. Moïse, David, Paul a dit, qui suis-je, moi ? Romain, grec, juif, j'ai été formé par Gamaliel, je suis le meilleur de l'époque, je suis un pharisien, mais je suis personne, je ne suis personne, je suis le premier des pécheurs, je suis vide de moi-même, je n'ai rien, c'est lui qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Quand tu commences à penser comme ça, tu arrives devant une situation, quel que soit le niveau de la personne en face de toi, tu n'as pas besoin de parler son langage, parle le langage de Dieu. Et c'est bien si tu parles son langage, c'est bien, mais c'est... Je comprends que ça c'est secondaire, monsieur ou pas? Il faut qu'on ait un équilibre ici là. Il faut qu'on dise, Seigneur, tous nos talents, c'est important, mais la priorité, c'est mon cœur avec toi. Qui connaît Mère Teresa? Est-ce que Mère Teresa a fait de très grandes études? Par contre, en grandissant, elle a appris à implanter, former, établir, mais la base, sa communion avec Jésus. Je lisais un de ses bouquins dernièrement et elle a dit une phrase qui m'a choqué. Elle disait un jour, ça faisait, écoutez bien ça, hein, ça faisait 2 ans et demi qu'elle n'avait pas ressenti la présence de Dieu. Elle a dit à Dieu, même si en ce moment tu ne me parles pas, je vais t'adorer aujourd'hui comme si j'étais la seule sur terre à pouvoir le faire. Quand tu arrives à ce genre de dimension là, c'est normal que je te fais confiance. Et quatrième point rapidement, lisez avec moi Jean 15, 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et mon cœur de pasteur ce matin, et donnez-moi encore 5 minutes, j'ai fini 5 minutes, c'est de vous dire frère, ce matin, c'est que tous les projets qu'on va mettre en place là, tout ce que vous allez vouloir faire pour les prostituées ou pour les sans-abri, pour les gens en difficulté, ces projets-là ne fonctionneront que si et seulement si votre puissance vient de Dieu. Que c'est l'amour que vous dégagez et c'est l'amour que je dégage, c'est un amour agapé. Que c'est l'onction que je dégage, c'est une onction pure. Lorsque tu vas parler à ces gens-là, c'est pas ton projet qui fera la différence, c'est ton cœur. Ce n'est pas le projet pour Dieu qui fait la différence, c'est le Dieu dans le projet. Et quatrième test rapidement. Ça n'a strictement aucun sens. Entre termes, Dieu appelle Abraham, après tu dis Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Et là encore, ça appuie ce que Dieu nous dit ce matin. On dit, Seigneur, voici mon projet, voici ma destinée, voici ma promesse, voici ce que tu m'as dit en prophétie. Je suis appelé à être un grand homme de Dieu. Cette semaine, j'ai pleuré devant le trône de Dieu, frère et sœur. J'ai compris une chose dans ma vie. Pendant trop longtemps, j'ai prié pour que je puisse avancer dans le royaume de Dieu. Pendant des années, j'ai prié pour que je puisse avancer dans le royaume de Dieu, alors que je devais prier pour faire avancer le royaume de Dieu. Combien ce matin vous priez en disant, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, c'est moi. Alors, on devrait dire, Seigneur, fais avancer ton royaume. Seigneur, manifeste ta puissance. Seigneur, guéris les cœurs. Seigneur, si tu veux me prendre moi pour comme outil, je suis libre. Mais Seigneur, prie pour son royaume, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. Il n'a pas dit, Seigneur, que moi je sois, que j'ai du succès, que moi je réussisse. Le seul verset qu'on prend souvent, c'est la prière de Jabez. Seigneur, étends mes cordages et ma tente. Oui, gloire à Dieu. Bien sûr que Dieu veut nous bénir. Dieu veut qu'on ait la vie en abondance. Mais la priorité, c'est que nous le connaissons, lui et lui seul, et que nous ayons la vie éternelle en lui. Amen. Dernier point ce matin. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Dieu dit, donne ton fils unique, ton Isaac. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que le danger que nous avons tous, c'est que la promesse, la prophétie qu'on a reçue, ou le don, ou le talent, le projet qu'on a devant nous, devienne notre Dieu. Et qu'on demande à Dieu de servir notre cause. Que souvent on demande à Dieu de servir notre projet, alors que notre projet doit servir Dieu et ses intérêts. Alors Dieu dit ce matin à son peuple, tout ce que tu veux faire pour moi, ton cœur, ton désir, donne-le-moi. Donne-le-moi. Moi, je sais quoi faire avec. J'ai beaucoup hésité avant, ce matin, parce qu'il vient directement pour moi du moment où j'ai vécu avec Dieu, où Dieu me disait, Bruno, fais attention que l'Église en France ou l'Église à La Réunion ne tombe pas dans le piège de croire que parce que nous avons de bonnes idées, on va changer une nation. C'est faux. Une nation sera transformée par la puissance de l'Évangile, car la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 1, car je n'ai pas honte de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. J'aimerais ce matin vous dire, frères et sœurs, que c'est avec moi et l'équipe pastorale, on attend avec impatience vos projets. Impatience. Mais il faut qu'on vous aide à comprendre que le projet va porter du fruit, que si vous et moi nous demeurons en Jésus-Christ et que Jésus-Christ demeure en nous. Que la prière soit toujours au centre de votre vie. Que Dieu soit dans le message, que Dieu soit dans le chant, que Dieu soit dans le projet, que Dieu soit dans ce que nous faisons. S'il n'est pas dans ce que nous faisons, il n'y a aucun impact. Il y aura du bruit, il y aura des fausses promesses, mais il n'y aura pas d'impact. Alors ce matin, j'aimerais demander à l'Église de prier avec moi cette semaine. J'aimerais faire un appel à tous ceux et celles qui ont le courage et le cran de dire, d'avouer deux choses. Premièrement, ce matin, dans ce lieu, tu sais quoi, Bruno, j'ai pas encore capté le plan de Dieu pour ma vie. Et j'ai un besoin urgent de comprendre ce que tu veux que je fasse. J'ai une idée ou j'ai pas d'idée, mais en tout cas, c'est pas encore clair dans ton cœur. Là, c'est ton cas, lève ta main au Dieu, s'il te plaît. Je parle de gens qui ne savent pas encore ce que Dieu veut qu'ils fassent exactement. Vous avez un doute. En tout cas, c'est simple. S'il n'y a aucun doute, c'est facile. S'il y a un doute, levez votre main. Vous n'êtes pas sûr de ce que Dieu vous appelle à faire. Ok, beaucoup de gens. Le deuxième appel que j'aimerais faire ce matin, c'est ceux qui, comme moi, ont voulu aider Dieu dans la chair. Entre termes, vous avez un appel, mais vous êtes rendu compte aujourd'hui que ce que vous avez fait, ce n'était pas toujours conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Parce que de temps en temps, ça arrive, on lâche prise et puis voilà, on fait ce qu'on veut faire. Et après avoir commencé dans l'esprit, on est dans la chair. Entre termes, je veux vous prier avec vous pour vous dire, allons nous repentir ce matin, c'est-à-dire changer de mentalité. Allons dire, Saint-Esprit, on ne peut pas travailler sur ta puissance. On ne peut pas. Vous savez, les hommes de Dieu qui aujourd'hui m'inspirent le plus et qui ont le plus grand impact sont dans les pays du Brésil et dans les pays de Thaïlande, d'Indonésie. Et ces hommes-là, ils expliquaient sur leur blog et sur leur message, ils disaient des choses fortes. Ils disaient, tu sais, les enfants de 6 ans débarquent dans un centre commercial, voient des hommes et disent, toi, Dieu te dit, mais quelle stratégie? Il n'y en a aucune. C'est un marmaille de 6 ans. Mais lui, il est conduit par ton esprit. Dieu lui a dit, il dit. Pas de questions, pas de, tu sais, raisonnement, il arrive. Dieu m'a dit, et le gars se repent devant tout le monde. Et après, il y a une queue dans le centre commercial. Et le petit marmaille de 6 ans, une petite fille, prie pour tous les malades et sont guéris. La Bible dit, il faut vraiment que c'est moi on prie là-dessus, tous les deux, pour qu'on puisse équilibrer le peuple de Dieu au niveau de l'enseignement. La Bible dit, cherchez-moi comme des petits-enfants. En France, ça fait des années qu'on stratégise. Tout le monde stratégise. Il n'y a pas un qui manifeste la puissance de Dieu. Et en priant cette semaine, Dieu m'a rappelé la parole du pasteur Dion Robert. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Après, on priera ensemble. Je m'ai dit, je vais le pasteur John Robert. Monsieur John Robert, qu'est-ce qu'il faut pour la France? Il me dit, Bruno, tu ne peux pas guérir un mort ou un mourant avec un efferalgan. Il faut un électrochoc. Il faut que ça soit une bombe spirituelle. Il faut que quand tu arrives dans un bureau de poste, dans un restaurant ou dans une maison, il faut que la puissance de Dieu qui est en Christ est en toi. Et quand tu dis « lève-toi et marche », tu peux avoir n'importe quel docteur en face de toi, tu as leur attention. N'importe quel parent qui a un enfant malade sera content de savoir qu'à Hosanna, il y a une église remplie d'hommes et de femmes qui ont la puissance de Dieu. Et pas la peine d'appeler le pasteur pour ça. N'importe qui t'appelle, tu vas chez eux, tu imposes les mains et bam, l'enfant est guéri. Tu crois pas que c'est bien ça? La Bible dit dans Actes 10:38, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de puissance et de Saint-Esprit et qui allait de lieu en lieu pour guérir et délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Le signe que Dieu est avec nous, c'est la puissance de Dieu en action. Alors ce matin, j'encourage tous ceux et celles qui ont des projets et tous ceux qui n'en ont pas. La chose la plus importante en ce moment, la plus importante en ce moment de tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de chercher le trône de Dieu. Connectez-vous à Dieu. Et je vous promets que si avec moi, on n'aura rien à faire si ça se trouve. Parce que lorsque quelqu'un est connecté à Dieu, la vision est tellement claire, tellement limpide. Un petit peu de coaching par-ci par-là, un petit coup de main, oui. Mais c'est tellement en toi que ça jaillit comme des fleuves d'eau vive. Moi, pas besoin de me dire, s'il te plaît Bruno, lève-toi le matin pour prier. Et c'est en moi, parce que j'aime le peuple. Amen. Tous ceux et celles qui sont dans ce lieu, s'il vous plaît, baissez la tête quelques secondes. Fermez vos yeux, s'il vous plaît, quelques secondes, frères et sœurs. Laissez votre tête avec moi, on va prier ensemble. Que ceux et ceux qui sont concernés par ce message ce matin, qui avouent que parfois on a tendance à raisonner, tendance à trop réfléchir, et on oublie la puissance de Dieu. Mettez votre main sur votre cœur avec moi. On va prier ensemble pour ceux qui veulent. Là, on n'est pas en train de faire un show. C'est pas pour me faire plaisir, c'est entre vous et Dieu maintenant même. Si vous savez que ce message a été pour vous, si vous savez que, mince, trop souvent, je tombe dans ce piège-là de beaucoup, beaucoup réfléchir, alors qu'en fait, il faut beaucoup, beaucoup prier. Un homme qui a prié est un homme prêt. Une femme qui a prié est une femme prête.